enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à celui qui est assis sur le trône. Non. Gloire à celui qui est élevé. Que la grâce de Dieu vous renouvelle ce matin au nom de Jésus-Christ. Que sa bonté soit manifeste dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible ce matin. Tout d'abord dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6. C'est tout juste pour établir notre texte de réflexion, notre texte de base. Jérémie chapitre 6. Si vous avez trouvé le passage, nous lisons à partir du verset 16. Je vous encourage à avoir vos Bibles avec vous. À chaque fois, je me réfère, je suis prédicateur de la parole de Dieu, je ne donne pas mes idées. J'aime la Bible ouverte toujours. La Bible ouverte est le meilleur moyen pour le prédicateur de savoir qu'il dépend de la parole de Dieu et non pas de son intelligence. Ok? Donc, Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Bien-aimés frères, écoutons, Dieu parle, il a parlé à travers Jérémie, et comme Dieu n'a point cessé d'être le même, la Bible dit dans Malachie qu'il n'y a point, il ne change point. Dans Jacques, il est écrit qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Dans Hébreux 13, il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En tant qu'ancien musulman, je voudrais vous dire quelque chose. Je n'ai pas eu une culture chrétienne. Excusez-moi. Je n'ai pas eu une culture chrétienne. Quand je suis devenu chrétien, je me suis attaché uniquement à la parole de Dieu. J'ai cherché, comme je l'ai dit hier, avant-hier au Bénin, j'ai fini de prêcher au Bénin avant de venir ici. Je voyais dans l'église de Christ plusieurs tiraillements. Et moi, en tant qu'ancien musulman, j'étais choqué. De l'extérieur, quand je regardais l'église de Christ, il y avait une unité. Quand je suis rentré là-dedans, il y avait la confusion. J'avais envie de ressortir rapidement. Heureusement que le Seigneur m'a attrapé. Pourquoi? Parce que chacun avait ses propres idées de la vie chrétienne. Les gens se référaient à la Bible comme un simple livre de référence, mais pas comme le livre de la vie. Alors, un jour, j'ai dit, Seigneur, moi, je suis bête. J'ai pris la Bible, je l'ai posée dans ma chambre d'étudiant. Je suis monté sur la Bible, m'arrêter. Écoutez-moi, ce n'est pas une expérience à faire. Je vous dis ce qu'il en est. Il n'y a rien, Dieu voyait mon cœur. En demeurant sur cette Bible-là, je disais à Dieu, il y aura des grands docteurs dans ce monde qui vont me dire que ta parole, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Des gens viendront avec des phénomènes modernes. Le modernisme va rentrer dans l'église de Christ. Les gens vont chercher des grandes choses pour se faire plaisir. Mais s'il te plaît, Seigneur, dès ce jour où je demeure dans ta parole, que je ne sois jamais influencé par aucun courant moderniste, que je ne sois pas influencé par des idées qui viennent de gauche et de droite, Mais je veux demeurer dans ta parole, car tu dis que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Depuis ce jour, je n'ai jamais été influencé par qui que ce soit. Personne. Vous pouvez prêcher ce que vous voulez, vous pouvez faire des miracles, je demeure dans la parole. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit dans le livre de Matthieu que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Faux Christ veut dire quoi? Christ veut dire ouin. Des faux ouin et des faux prophètes. Écoutez ce que la Bible dit. Ils feront des signes, des miracles, des grandes choses à tel point que même les élus risquent d'être séduits. Cela veut dire quoi? On n'a pas dit que ce qu'ils vont faire n'est pas vrai. Ils lèveront des paralytiques au nom de Jésus, mais ce sont des faux Christ. Ils vont prophétiser des choses qui vont se réaliser, mais ce sont des faux prophètes. Dans quel but? Les élus qui s'attachent à la parole, les élus qui veulent marcher avec Dieu, vont rester dans la parole. Or, si nous regardons, depuis des années, il y a des signes, des prodiges partout dans l'église de Christ, mais des signes et des prodiges qui n'attachent pas le cœur des chrétiens à Christ. Des signes et des prodiges qui attachent les cœurs des chrétiens aux prédicateurs, aux vedettes chrétiennes, à des one-man shows chrétiens. Les gens courent derrière les prédicateurs, ils ne courent pas derrière Christ. Les gens courent derrière les prophètes, ils ne courent pas derrière le Dieu des prophètes. Je préfère vous dire la vérité, car la vérité nous rendra libres. Dieu dit à Jérémie, Jérémie était un prophète qui a beaucoup souffert entre les mains du peuple Dieu. Son message était un message à côté de la majorité. Son message était un message qui ne cadrait pas avec le contexte socio-culturel, spirituel de son époque. Quand Jérémie parlait, les gens étaient mal à l'aise. Pas parce que c'était faux, parce que la parole de Jérémie les interpellait. La parole de Jérémie les attirait pour revenir au Seigneur. Alors Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, continue. Dis à mon peuple de regarder ses voies et de retourner dans les anciens sentiers. Les anciens sentiers, ça veut dire qu'ils sont sur les nouveaux sentiers. S'il parle d'anciens sentiers, ça veut dire que le peuple a abandonné les anciens sentiers et qu'il est sur les nouveaux sentiers. Et pourquoi il doit retourner sur les anciens sentiers? Pour y marcher. Et, conjonction de coordination toujours, et en ce moment seulement, vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos que nous cherchons avec les manifestations, frère. Le frère chevalier Patrice est là. J'ai vécu les manifestations dans son amplitude. Je restais là, je levais les mains. Il est là, les cassettes vidéo sont là. Je lève les mains, là, je fais toute une rangée, des gens tombent. Je demande à l'église, des gens qui sont là, messieurs, levez-vous, venez vers la chair. Je suis vers la chair, je demande que l'onction de Dieu est là. Avancez, à 2 mètres de la chair, quand tous ils arrivent un à un, personne ne peut arriver à la chair, tous tombent sur la face, pap. J'ai vu l'onction dans sa manifestation et Dieu m'a rappelé un jour, dit, petit viens ici, petit Mamadou viens là. Viens là, viens là. J'ai quelque chose à régler avec toi. Moi j'aime Dieu parce que Dieu n'a pas peur de moi. Alléluia. Quand il a envie de me corriger, il m'appelle, dit, viens, on va se voir. Il dit, mais ce que tu fais, c'est bien. Les manifestations sont bien. Tout ça, c'est très beau. Mais est-ce que mon peuple s'est attaché à moi? Quel est le fruit de sa vie? Ah, il dit, mais Seigneur, tu vois, ils sont bien, ils sont là, ils sont chauds. Il dit, oui, d'accord, ils sont chauds. Mais leur cœur est chaud aussi, n'est pas froid. Leur cœur n'est pas renouvelé. Bien-aimés frères, il me dit, retourne sur les anciens sentiers. Ramène mon peuple dans ces sentiers qui aboutiront au repos de leur âme. Pourquoi l'âme? Parce que dans l'âme, il y a quoi? Les émotions, il y a la volonté, il y a les sentiments. Mon peuple, extérieurement, a des manifestations, mais intérieurement, il vit dans des tourmentes, dans des tempêtes. Quand ils sont seuls au quartier, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand ils sont à l'église, ils ont la victoire. Quand ils vont au bureau, ils sont dans la défaite. Quand ils vont dans les quartiers, dans la défaite. Dans leur ville, dans la défaite. Mon peuple n'a le repos que lorsqu'il se trouve dans l'église seulement, durant les manifestations. Il dit, mais en ce moment-là, comment vont-ils atteindre leurs prochains? Comment vont-ils atteindre leurs gens de quartier? Comment ils vont les atteindre? Si dans la maison de mon peuple, on entend des querelles, on entend des casseroles qui volent, comment les voisins vont croire que Dieu est un Dieu de repos? Les voisins ne regarderont pas l'église. Les voisins savent qu'au théâtre aussi, on peut faire beaucoup de manifestations comme dans l'église. Bien-aimés frères et sœurs, il est bon que nous puissions nous reprendre. Les anciens sentiers vont apporter le repos de nos âmes. Et quels sont ces anciens sentiers? On en a vu un hier, la prière. La prière est un des anciens. J'ai dit, il n'y a pas un homme dans la Bible qui a réussi sans la prière, vie de prière. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, pour choisir ses disciples, il a veillé la nuit sur la montagne, toute une nuit. Pourtant, il aurait pu s'arrêter et puis choisir des disciples, dire viens là, viens là, viens. Non, il est monté sur la montagne toute une nuit pour avoir les noms des 12, des 12 apôtres. Comment choisissons les anciens et les diacres de l'église aujourd'hui? Sur la montagne? Est-ce que Dieu nous les montre sur la montagne? Est-ce que Dieu montre les collaborateurs, les responsables d'église? Quand le pasteur est monté sur la montagne, quand les anciens sont montés sur la montagne de la prière, est-ce que nous sortons, nous descendons de la montagne avec des noms? Est-ce que nous descendons de la montagne comme Moïse? Quand il est descendu de la montagne, il est descendu avec le plan complet du tabernacle. Et même ceux qui devaient travailler dans le tabernacle, ceux qui devaient faire les rideaux du tabernacle, Dieu a donné les noms, les Oholiab, les Uri. Moïse n'a rien eu à faire, sauf qu'à monter dans la présence de Dieu et descendre de cette présence avec le plan du tabernacle, avec les travailleurs du tabernacle, avec les moyens du tabernacle. Et c'est pourquoi Moïse était un homme dont Dieu aimait se révéler à lui face à face. Parce qu'il savait que Moïse cherchait la face de Dieu. Moïse aimait aller entrer dans la présence de Dieu. Moïse aimait rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui révèle son cœur. Dieu ne révélera pas son cœur à quelqu'un qui passe en trombe devant lui. Quelqu'un qui vient dire, « Hello Dieu, au nom de Jésus-Christ, bénis mon mari, bénis ma femme, mes enfants, au nom de Jésus-Christ, à bye-bye demain. » Dieu ne révèle pas son cœur. Dieu le bénit, Dieu le protège, mais Dieu a des secrets dans son cœur qu'il veut révéler. Et il va les révéler seulement à la femme et à l'homme qui prendront du temps dans sa présence. En ce moment, Dieu ouvre son cœur. Et tu commences à lire les secrets de Dieu pour ce monde perdu, pour ceux qui sont autour de toi. Et tu pleures, tu te rends compte que Dieu souffre. Dieu souffre parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se tient dans sa présence pour qu'il lui révèle les solutions pour ce monde dans la confusion. Ce monde où les parents pleurent pour leurs enfants, où les femmes pleurent pour leurs maris, où les parents pleurent
Et les travailleurs pleurent parce que Dieu pourtant a des solutions. Mais il cherche un homme qui va venir dans sa présence. Frères et sœurs, je voudrais que nous rentrons dans les réalités de la profondeur de Dieu, dans les anciens sentiers, afin qu'au sortir de ce temps de séminaire, que nous puissions aller de l'avant. Frères. Alors ce matin, après le premier sentier ancien que nous avons vu hier, nous allons voir un deuxième sentier qui est très important, par lequel j'aurais dû commencer ce matin et depuis hier, radon l'adoration, le premier ministère du chrétien. Tout le monde veut les ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Dieu dit non, le premier des ministères. Dieu cherche de vrais adorateurs. On va voir ce matin, est-ce que tu es vrai adorateur ou tu es faux adorateur? Ce n'est pas parmi les païens. Quand Dieu parle de vrai adorateur, faux adorateur, ce n'est pas chez les païens. Non, c'est dans l'église. Dans l'église, il y a des vrais et des faux adorateurs. C'est dans l'église qu'il y a toujours les deux groupes de gens. C'est dans l'église qu'il y a les vierges folles et les vierges sages. C'est dans l'église qu'il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. C'est dans l'église qu'il y a les oints et ceux qui... C'est dans l'église qu'il y a les David et les Saül. C'est dans l'église qu'il y a les Akab et aussi... Donc, c'est dans l'église. Dieu dit qu'il cherche. Ça veut dire que le mot chercher, ça veut dire quoi? Tous les chercheurs savent, s'ils cherchent, ça veut dire que ce n'est pas facile à trouver. Si Dieu cherche, cela veut dire qu'on ne ramasse pas les vrais adorateurs dans l'église comme cela. On peut ramasser des cailloux à la surface de la terre, mais on ne ramasse pas de l'or à la surface de la terre. Si vous ramassez de l'or à la surface de la terre, ça doit être de l'or un peu trafiqué. L'or va au fond, on cherche l'or. On peut boire l'eau à la surface du sol, il y a des étangs. Il y a des marigots, il y a des rivières sur la surface de la terre. Mais le pétrole ne se trouve pas sur la surface de la terre. Mais au fond, on cherche le pétrole et on va trouver. L'adoration ne se trouve pas à la surface de la terre. L'adoration n'est pas quelque chose de léger. L'adoration est quelque chose de profond. Et il faut aller devant le Dieu d'adoration pour qu'il nous révèle la vraie adoration. Et en ce moment, si nous entrons dans la vraie adoration, il y a l'adoration de l'église que nous faisons avec le groupe musical. Il y a l'adoration de l'église quand nous levons les mains pour adorer Dieu dans le groupe musical. Ça, c'est un second aspect de l'adoration. Ce dont je vais parler ce matin, quand Jésus enseignait, il n'y avait pas de groupe musical. Quand Jésus enseignait, il n'y avait pas de groupe musical ni de chorale. Il nous a enseigné l'adoration dans le contexte de Dieu. Frères, c'est ce que je vais vous dire. C'est ce qui a fait que Dieu m'a aidé pendant toutes ces années à traverser ces moments difficiles, à traverser, aller dans le monde. Quand Dieu m'a envoyé aux États-Unis pour prêcher, j'avais peur. J'ai dit à Dieu, aux États-Unis, il y a des grands prédicateurs. Il y a des hommes qui ont une puissance extraordinaire. Mais qu'est-ce que je vais aller faire aux États-Unis? Dieu m'a dit, je t'envoie là-bas, vas-y seulement. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prêcher des messages simples. Les Américains s'effondraient, ils pleuraient. Je vois cette grande église d'Atlanta. Une église de 4500 membres. Une église, quand vous entrez, la moquette est aussi épaisse. Frère, quand vous marchez, vous pensez que vous êtes dans le temple de Salomon. Mais j'étais complexé. Tout était beau. Et il n'y avait même pas de micro. Il a tellement élevé. Un grand palais. Grand palais dont le plafond est très haut. Au moins 30 mètres. Et une résonance telle manière quand vous parlez, votre voix s'en va partout. Je dis, mais c'est tellement beau. Oh Seigneur, j'étais complexé. Ah. Je dis, mais Seigneur, tu m'envoies ici pour faire quoi? Il dit, attends, quand j'ai commencé à prêcher au bout de 15 minutes, j'ai dit simplement, au nom de Jésus-Christ, les gens rampaient à terre comme des serpents. Dieu m'a dit, tu as vu? Tu as vu ce qu'il y a? Le pasteur a ouvert ses yeux comme ça. Quand je chassais les démons, les gens rampaient, les gens criaient. Ceux qui disaient, praise the Lord, praise, hallelujah. Maintenant, ils étaient en train de crier. Ah, oh, oh. Frère, c'est depuis ce temps que Dieu a commencé à m'enseigner. Il me dit, fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fais attention au visage des gens. Va en profondeur, gratte un peu et tu verras que au-delà de ce qui brille là, il n'y a que du bronze derrière. Frère, cela m'a choqué, transformé. Et quand j'ai quitté les États-Unis, ensuite je suis allé au Canada, c'est la même chose. J'ai dit au Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à être un homme de la parole. Donne-moi à être un homme simple. Être un homme ordinaire dépendant d'un Dieu extraordinaire. Un homme ordinaire, mais qui dépend d'un Dieu extraordinaire. Un petit homme qui dépend d'un grand Dieu. Non pas un grand prédicateur qui dépend d'un petit Dieu. Il y a beaucoup de grands prédicateurs, mais leur Dieu est trop petit. Moi, je suis un petit homme qui dépend d'un grand Dieu. Ça, c'est différent. Frères et sœurs, c'est différent. Alors, ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 4 pour voir le ministère, le premier ministère du chrétien, le ministère de l'adoration. Non pas dans ce que nous pensons aujourd'hui, ministère d'adoration. Je ne veux pas parler, écoutez-moi, je ne parle pas des groupes musicaux, oublions cela, tout cela, donc pour que quelqu'un ne soit pas culpabilisé, non, je parle de l'adoration. Nous adorons par les groupes musicaux, c'est très bon, il n'y a aucun problème, je ne parle pas de ça. Donc, il faut faire attention, le diable aime culpabiliser les gens en croyant que ce qu'il a dit, il l'applique dans le mauvais sens. Donc, les groupes d'adoration est une bonne chose et que c'est très bon, ça amène la présence de Dieu. Mais oublions ce matin, cela, nous allons parler de l'adoration sans contexte de l'église locale, sans contexte de réunion de l'église locale. Matthieu 4. Lisons le verset 8. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Vous arrêtez là et on saute au verset 11. Après, on va lire le tout. Premier verset, le verset 8. Le diable transporta le, ça veut dire c'est Jésus, transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Verset 11. Alors le diable le laissa. Regardez les deux situations. Première présentation, le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Deuxième chose, alors le diable le laissa. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux parties? Premièrement, le diable transporte Jésus sur une haute montagne. L'image change, on ne voit plus Jésus sur une haute montagne. On voit la deuxième image, Satan qui laisse Jésus. Pourquoi Satan a-t-il laissé Jésus? Pourquoi d'abord il est venu pour le transporter? Il transporta le Seigneur sur une haute montagne. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Satan transporte, il a transporté notre Seigneur. Il transporte aujourd'hui encore le peuple de Dieu sans se rendre compte. Il le transporta sur une haute montagne. Il lui a présenté en un clin d'œil le monde entier. Regardez, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il montre au Seigneur Jésus le monde entier, tous les royaumes, les richesses de ce royaume et leur gloire. Et leur gloire. Donc le monde a une gloire. Le monde a une gloire qui est une réalité, frère. Nous ne pouvons pas nier la gloire du monde. La Bible l'accepte. Jésus a fait écrire par Matthieu que le monde a une gloire et une gloire qui attire les hommes. Ne renions pas la gloire du monde. Elle est réelle. Elle est là. C'est pourquoi Satan sait que par cette gloire de ce monde, il peut attirer chacun d'entre nous puisqu'il l'a proposé à notre Seigneur. S'il a osé le proposer au Seigneur, c'est parce que il l'avait proposé à quelqu'un au commencement, Adam, dans le jardin d'Éden. Et il a piégé Adam avec la gloire. Il a eu Adam. Et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, il est venu. Si j'ai eu le premier Adam par ma gloire, je vais avoir le second, dernier Adam, par la même chose. Mais cette fois-ci, regardez la réaction du dernier Adam. Regardez sa réaction. Le monde est là avec sa gloire, la gloire de la renommée, la gloire de la manifestation, la gloire de, d'un homme qui sort. Au lieu que Jésus suive le chemin du Père, Satan veut lui court-circuiter pour lui donner un chemin court de la gloire où il va sortir avec une grande renommée, il va sortir avec des grandes manifestations. Mais en ce moment, il aura évité le chemin étroit. Le chemin large de la gloire était proposé à Jésus. Le chemin large de toute la renommée était proposé à Jésus pour qu'il abandonne le chemin étroit qui allait l'amener à la gloire finale, définitive et permanente. Mais pourquoi Satan propose cela? Satan a proposé cela à Jésus parce qu'il avait un but. Regardez le verset 9. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Frère, n'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Que Dieu nous aide ce matin. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Le premier arbre qui est l'arbre de la vie. Le deuxième arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur cet arbre-là, il y a du bien, il y a le mal. Sur cet arbre, il y a la gloire aussi. C'est pourquoi toutes les religions ont le bien et le mal. Tous les ministères ont le bien et le mal. Mais sur l'arbre de la vie, il n'y a pas bien et mal. Il n'y a que la vie seulement. Il n'y a que la vie seulement, rien que la vie. Mais sur le second arbre, il nous est proposé le bien, en même temps, le mal. Mais le bien est tellement habillé que quand il nous est proposé, on ne voit pas d'abord le mal. C'est quand on a avalé le bien de Satan que le mal se présente. Quand Adam a avalé le bien de Satan, le mal s'est présenté. La séparation de la famille, la division, la maladie, les souffrances, c'est en ce moment que Satan a révélé le mal. Il dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, tu vois toutes les gloires là, ces gloires du monde brillent. La gloire du ministère est une chose dangereuse. Frère, la gloire du ministère, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La gloire du ministère. Oh, tout le monde adule l'orateur. Oh, quand cet homme-là vient, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens ne savent pas. Je suis allé aux États-Unis une année parce qu'il y avait un homme, un grand homme de Dieu qui était à la mode. Tout le monde l'adulait. Je suis allé au Texas. Je suis arrivé à l'aéroport de Dallas. J'ai pris un taxi avec un Pakistanais, le taxi d'un Pakistanais pour aller donc voir cet homme de Dieu qui m'envoyait régulièrement du courrier. Et le taximan m'a demandé, monsieur, où allez-vous? J'ai dit, je m'en vais chez tel homme de Dieu. Il me dit, ah bon, vous allez là-bas? Je dis, oui, oui. Mais vous ne savez pas que cet homme de Dieu sera arrêté bientôt? J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il n'a pas une intégrité. Pourtant, dans le monde, on l'adule. Pourtant, dans le monde, on le voit. Pourtant, dans le monde, il fait de grandes choses. Et ce Pakistanais qui est de la religion, il m'a dit que moi, je suis Bahaï. Bahaï, vous connaissez les Bahaï, si vous n'avez pas entendu. Je suis un Bahaï. Mais, il dit, mais ce n'est pas fini. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez aux États-Unis, là, les impôts américains sont derrière eux. On va les arrêter un à un. Et depuis ce temps qu'il a dit ça, plusieurs ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que, frère, Satan ne vient pas vous dire, suis-moi. Satan ne fera jamais ça. Sinon, vous allez le repousser. Il va vous proposer de la gloire. Le grand chemin large de la gloire, de la renommée, des choses extraordinaires qui ne viennent pas de lui, mais qui sont un moyen pour vous empêcher d'avoir ces choses-là par le chemin étroit. Lui, il les propose avant. Et cet homme, effectivement, a eu des problèmes, des difficultés. Par la télévision, venait à ses réunions. La télévision venait secrètement filmer tout. Et après, on s'est rendu compte qu'il manipulait. Il faisait des choses. Il disait à quelqu'un, Dieu, avant que quelqu'un rentre dans la salle, quelqu'un qui avait une canne qui boitait, il le met à côté de quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui a des problèmes, Dieu, il dit maintenant, Dieu guérit cet homme avec une canne, et il dit à celui qui a des problèmes, Dieu, prends la canne et marche. Alors les gens croient que c'est celui qui était paralysé qui était guéri. Terrible. Des gens se levaient des chaises roulantes. Mais, frère, quelque chose n'allait pas. Satan dit, je te propose là, si tu m'adores et si tu te prosternes, je te propose la gloire, je te propose les royaumes, je te propose la renommée, je te propose le succès. Les gens vont t'applaudir. Quand les gens vont te voir, ils vont dire, quel homme merveilleux, homme de Dieu, quelle merveilleuse femme de Dieu. Et Jésus de répondre à Satan, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi. Vous entendez? Ta proposition ne m'intéresse pas. Tu l'as proposée à Adam, tu l'as eue, mais quant à moi, elle ne m'intéresse pas ta proposition. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez les deux encore? Tu adoreras d'abord l'Éternel Dieu, lui, et après, tu le serviras. Or, aujourd'hui, le service a pris pas sur l'adoration. Le service a pris pas sur l'adoration. Et cela est dommage que dans nos églises, frères et sœurs, que dans nos églises, nous laissons le service prendre pas sur l'adoration. Or, l'adoration est le moyen, effectivement, de faire un service valable et durable. Si vous adorez le Seigneur, vous allez le servir d'une façon efficace. Mais si vous le servez sans l'adorer, quelque chose se passera. Le service même ne sera pas utile. Le service deviendra un poids, un fardeau, et l'oppression, la dépression vont venir. Pourquoi dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent le christianisme et cherchent les religions orientales, cherchent les religions païennes, cherchent l'ésotérisme parce qu'ils ont voulu servir Dieu et étant épuisés moralement et spirituellement, ils cherchent un recours et on leur propose les drogues de l'ésotérisme pour les restaurer, restaurer leur âme. Et ils s'y jettent là-dedans, ne sachant pas que c'est un piège dans lequel ils se trouvent. Bien-aimés frères et sœurs, verset 11, alors le diable le laissa. Le diable le laissa quand? Quand il a dit, Satan, retire-toi, car moi j'adore, on doit adorer Dieu d'abord, c'est en ce moment que Satan va vous laisser. Satan va vous laisser, ça veut dire quoi? Il va partir pour attendre un temps profitable. Il va revenir. Mais dès le moment où vous avez décidé d'être un adorateur de Dieu, avant de le servir, nous sommes d'abord adorateurs avant d'être serviteurs. Nous sommes adorateurs avant d'être serviteurs. Si nous adorons Dieu convenablement, nos vies non seulement vont prospérer spirituellement, notre ministère va prospérer. Nous serons des serviteurs efficaces, portant du fruit à la gloire de Dieu, glorifiant Dieu. Nous n'allons pas cueillir les fruits pour nous-mêmes, mais nous allons glorifier, élever, exalter le nom de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir cela dans Jean 4, pour que ce matin, nous ne soyons pas très très longs. Jean 4, et ensuite, nous allons voir les caractéristiques du vrai adorateur. Jean 4, regardons dans l'évangile de Jean. Chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Donc, il a dit à Satan, L'homme doit adorer d'abord Dieu. Maintenant, il va dire à la Samaritaine, qui est la Samaritaine? Frère, quand on évangélise, on prend la Samaritaine comme un contre-exemple. Mais regardons la Samaritaine, c'est plus que cela. La Samaritaine, c'est une personne très religieuse. C'est une personne connaissant beaucoup de choses sur Dieu. J'ai dit, je n'ai pas dit qu'il connaît Dieu, hein, mais qu'il connaît, qu'il sait beaucoup de choses sur Dieu. Elle sait qu'il y a eu Jacob. Elle connaît le puits de Jacob, mais elle ne connaît pas le Dieu de Jacob. Elle boit au puits de Jacob, mais elle n'a jamais bu au puits du Dieu de Jacob. Elle sait qu'il y a des patriarches. Elle sait même qu'un Messie doit venir, oui ou non. Elle sait que le Messie doit venir. Elle sait toutes ces choses. Pourtant, le Messie est devant elle, elle ne le reconnaît pas. Elle a beaucoup de connaissances livresques, beaucoup de pratiques religieuses, mais sa vie n'est pas changée. C'est dommage. Elle est une adoratrice, puisqu'elle va dire le mot. Regardez le verset 19. Jean 4, verset 19. Jean 4, verset 19. Qu'est-ce qu'elle dit, la Samaritaine? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20 maintenant. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Première, donc elle est une adoratrice. Mais quel genre d'adoratrice? Elle dit nos pères ont adoré. Elle-même, elle se met parmi les adorateurs. Nos pères ont adoré, ils nous ont appris à adorer ici. Elle se considère comme une adoratrice de Dieu. Elle a raison parce que ses pères spirituels lui ont appris comment adorer un lieu. Et elle dit que mais les Juifs, eux, ils adorent à Jérusalem. Jésus va corriger cette erreur de la pensée de la femme. Jésus va corriger cette erreur de sa pensée. Frère, en disant quoi? Regardons ce que Jésus lui dit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous voyez bien? L'adoration, Jésus commence à préciser l'adoration. Qui on adore? Il dit le Père. Or, la Samaritaine dit Dieu. Dieu n'est pas son père. Dieu, c'est un mot vague. Dieu veut dire objet d'adoration. Dans mon pays, les gens adorent Dieu à travers des statues, des cailloux. Ils appellent ça Dieu. Il y a des gens qui adorent le soleil en l'appelant Dieu. Mais Jésus dit, attention, l'adoration, ce n'est pas ça. D'abord, l'objet de l'adoration, c'est le Père. Précision, claire. Tant que Dieu n'est pas ton père, tu n'es pas parmi les adorateurs. Il faut d'abord que tu sois fils, fille de Dieu et que tu puisses appeler Père, Père. Jésus dit, vous adorez, il dit, sur cette montagne, ce n'est pas ça, mais nous adorons le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez les faux adorateurs? Ils adorent, mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça le problème. Ils adorent la personne avec qui il n'y a pas une connaissance. On ne dit pas savoir. On n'a pas le mot savoir. Hein. Elle sait beaucoup de choses sur le Dieu qu'elle adore, mais elle ne connaît pas le Dieu qu'elle adore. Donc, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En ce moment, ce n'est pas une vraie adoration. Si vous ne connaissez pas l'objet de votre adoration, parce que l'adoration, c'est quoi? C'est une relation, l'objet. Écoutez-moi, les frères africains sont là. Je vous dis une chose, pour que vous compreniez l'adoration, allons chez les païens, allons chez un prêtre païen, pour que vous compreniez l'adoration. Quand le féticheur a son fétiche, la maison du fétiche, où il a égorgé le poulet, il a mis le sang du poulet sur le fétiche de pierre ou le morceau de bois et tout. Quand le féticheur rentre dans la salle du fétiche, il est conscient que ce fétiche-là est réel. Est-ce que vous comprenez? Il fixe toute son attention sur cette pierre ou cette statue qu'il a taillée lui-même. Et au bout de quelque temps, le fait qu'il est concentré sur ce fétiche, il y a une communication entre le fétiche et lui. Des choses commencent à se passer entre lui. Tout son être change. Pourquoi? Il s'identifie maintenant à ce fétiche-là. C'est en ce moment qu'il entend des voix venant de ce fétiche qui lui dit les problèmes des gens, les difficultés des gens. Il y a un esprit derrière ce morceau de bois qui commence à communiquer avec lui. Pourquoi? Parce que le féticheur, en entrant dans la salle du fétiche, a abandonné toute chose au dehors. Ses propres pensées sont au dehors. Ses propres ambitions sont au dehors. Il rentre avec une crainte dans la présence de son fétiche, de son idole. Et en sortant, il sort de façon qu'il a été... comme la montagne de la transfiguration. Il sort parce qu'il y a une relation d'osmose entre la statue et lui à travers l'esprit mauvais derrière la statue. Donc quand il sort, il est en transe, vous voyez, il est changé. Et il commence à dire des choses qui vont s'accomplir. Ça, c'est ça l'adoration. L'adoration de Dieu, c'est d'entrer dans sa présence, de contempler sa présence de telle manière que la nature de Dieu, sa sainteté, sa sagesse, vous donnez votre vie vide. Lui, il vous remplit de sa sainteté, il vous remplit de sa sagesse, et vous sortez transformé. Il y a une identification entre vous et l'objet de votre adoration. Vous devenez un avec celui que vous adorez. Ce n'est pas une adoration extérieure. Est-ce que vous comprenez? C'est cela, frère. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, si réellement vous adorez ce que vous connaissez, ta propre vie ne sera pas comme cela. Tu n'aurais pas eu 5 hommes et tu ne seras pas avec un 6e homme. Quand on adore Dieu, on ne peut pas avoir de 6e homme. Non. Quand on adore Dieu, le vrai adorateur, quand il rentre dans la présence de Dieu, il laisse là-bas tous ses péchés. Toute sa vie est délaissée là-bas. Il sort avec une vie transformée. L'adoration transforme. Parce que Dieu vous communique son image, il vous communique sa sainteté, il vous communique ses caractéristiques. Quand vous sortez de l'adoration, vous êtes un homme transformé. Vous êtes un homme transformé, frère. C'est pourquoi l'adoration prend du temps. Aucun féticheur n'adore son fétiche 10 minutes, 20 minutes. Il reste là-bas toute la demi-journée. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Jusqu'à ce qu'il y ait cette relation profonde. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus continue avec la femme. Il dit, mais l'heure vient, verset 23, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous entendez encore le mot? Adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a utilisé le mot par l'esprit de vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire par l'esprit de vérité. Donc, le Saint-Esprit est celui qui entre et qui nous fait adorer le Père. Le Saint-Esprit, comme le féticheur, derrière la statue n'est rien, mais il y a un mauvais esprit derrière. Le mauvais esprit qui est derrière, c'est lui qui amène l'adoration entre le féticheur et l'idole. Donc ici, entre le chrétien et le Père, le Saint-Esprit va communiquer l'esprit d'adoration. Le Saint-Esprit rentre en là et il amène, frère, quelque chose d'extraordinaire entre vous et le Père. Et vous aimez sa présence. Vous n'avez pas peur de sa présence. Chaque jour, vous avez envie d'aller dans sa présence. Parce que vous savez, quand vous sortez, vous êtes renouvelé. Vous savez qu'en sortant, vous êtes purifié. Vous savez qu'en sortant, il y a une paix, un repos qui est en vous. Et vous voyez votre propre vie changer de l'intérieur. Pas de l'extérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Vous voyez une marque de Dieu dans votre vie, frère. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, Jésus dit, ayant dit cela, qui peut contredire cela? Qui? Parfois, je vois les hommes de Dieu qui osent prendre des défis quand ils entendent des choses comme ça, pour venir dans la chair, pour dire non, on peut faire. C'est pas vrai. Jésus dit, le Père demande de tels adorateurs. Quiconque contredit ça, il se met en dehors du plan de Dieu. Voilà les adorateurs que Jésus, le Père, demande. Ah oui, l'église d'aujourd'hui appartient à qui? Ou à un pasteur? C'est l'église de Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu? Il dit, je bâtirai mon... Nous, les pasteurs, nous sommes quoi? Des co-ouvriers. Des co-ouvriers. Qu'est-ce que le rôle d'un co-ouvrier? Qu'est-ce que le rôle d'un manœuvre sur un chantier? Quand il y a le chef de chantier, quand il y a le maître de chantier. Le rôle de l'ouvrier sur le chantier, c'est d'obéir à celui qui bâtit le chantier. Quand le maçon dit, envoyez-moi des briques, ils envoient des briques. Quand le maçon dit, envoyez-moi du ciment, ils envoient des ciments. Jamais un ouvrier de construction n'a pris sur lui l'initiative de faire quelque chose sur le chantier. Sinon, il sera licencié sur place. Ce n'est pas lui le bâtisseur. Il n'est qu'un co-ouvrier. Nous sommes des co-ouvriers en tant que chrétiens. Donc, laissons l'Esprit de Dieu, frère. Nous sommes dans la génération où nous sommes pressés. Nous avons inventé des cocottes minutes et nous sommes devenus des chrétiens cocottes minutes. Tout, nous appuyons sur les boutons. Nous voulons l'onction, l'onction. Frère, l'onction, l'onction. Pam, 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 pam. Les gens tombent, ils se lèvent, ils s'en vont. Ils s'en vont. Mais rien ne reste. Rien ne reste de durable. De durable. Voici les adorateurs que le Père cherche. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Au verset 24, il dit cela. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour terminer, regardons les caractéristiques du vrai adorateur. Frère, les caractéristiques du vrai adorateur. Le temps vient où l'ennemi est en train de proposer beaucoup de choses à l'Église. Et nous prenons ces choses sans discerner. L'ennemi n'est pas bête. Quand il a proposé à Adam et Ève, il n'a jamais dit que c'est lui Satan. Il est passé par un serpent, un des compagnons d'Adam et Ève. S'il vous plaît, frère. L'ennemi n'est pas venu en personne devant Adam et Ève pour dire, c'est moi Satan, mangez le fruit. Sinon tout de suite, Adam qui le connaît, allait dire arrière. Il est passé par le serpent. Et les gens disent que les premiers livres de la Genèse, c'est du mythe. Et dans l'église de Christ, on dit que c'est du mythe. Que Moïse avait mal mangé, il a fait un mauvais rêve, il a écrit les premiers livres de Genèse. Les livres de Genèse, ce n'est pas un mythe, frère. Faites attention. Satan a pris... Le serpent était un des collaborateurs d'Adam. Vous entendez? Il conversait avec Adam et Ève. C'est pourquoi quand le serpent a parlé, ça n'a pas du tout choqué Adam et Ève, puisqu'il est avec eux tous les jours. Faites attention. Si la Bible dit que les élus risquent d'être séduits, ce n'est pas par les païens. C'est par ceux qui sont dans l'église qui vont apporter des choses. Vous savez, il dit, mais Dieu vous aime, Mais vous savez, c'est ça qui est aujourd'hui à la mode encore. Dieu nous aime. Vous savez, Dieu est papa. Dieu est un bon papa. Mais quand même, il y a des choses. Il ne veut pas ceci ou cela. C'est vrai, Dieu est un père. C'est un vrai père. C'est notre vrai père. Mais il avait déjà dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. N'oublie pas ça. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit à Adam, hein, je suis un bon papa, mais ma parole, c'est mon caractère. Si tu refuses ma parole, tu refuses mon caractère. Si tu refuses mon caractère, tu me traites de menteur. En ce moment, ce n'est plus le père qui agit, c'est le juge qui agit. N'oubliez pas, Dieu est bon, il est amour, il est juste aussi. Ah! Il n'est pas un grand-père, hein? Il est un père. Un père qui refuse d'être juste va détruire la vie de ses enfants. Il est un père. Il a parlé à Adam. Mais qu'est-ce que l'ennemi nous dit? L'ennemi nous dit toujours, comme il a dit à Adam et Ève. Où est-ce qu'il a trouvé Adam et Ève, s'il vous plaît? Il y avait deux arbres dans le jardin. Comment a-t-il pu tenter Adam et Ève? Parce que Adam et Ève étaient tout le temps auprès de quel arbre? Il les a trouvés où? Auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et frère, ce n'est pas de l'histoire là. Est-ce que si Adam et Ève se trouvaient près de l'arbre de la vie, Satan allait les tenter là-bas? Satan leur a dit de manger l'arbre de la vie? Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il a trouvé Adam et Ève près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal intriguait Adam et Ève. Tout le temps, ils tournaient autour de cet arbre-là. Satan dit, ah ah, je vois, ils veulent quelque chose. Il est venu leur proposer son service. S'il tournait autour de l'arbre de la vie, il n'allait jamais venir. Si vous tournez autour de Jésus, il ne viendra pas. Mais s'il voit que vous aimez des choses, il va venir vous proposer. Quand il est arrivé, il y avait l'arbre de la vie. Il leur dit, je vous dis une chose, Dieu est bon, hein? Je ne dis pas non, Dieu est très bon, mais quand même il vous a caché un secret. Et ce secret c'est quoi? Si vous mangez cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. C'est ça qu'il vous a caché seulement. Il est très bon, mais il n'a pas voulu que vous soyez comme lui. Il n'a pas voulu que vous soyez puissant comme lui. Il n'a pas voulu que vous puissiez manifester tout comme lui. Ah, Ève a dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Nous allons manger cet arbre. Ils ont mangé, ça a été la catastrophe pour la race humaine. C'est là, Satan n'a pas changé. C'est le même piège qu'il tend régulièrement aux chrétiens et il réussit. Le même piège. Il viendra dire à quelqu'un dans son cœur, quand Satan voit dans une église quelqu'un qui veut, qui a le désir de remplacer un pasteur, dans son cœur, il a une envie d'être pasteur. Satan viendra proposer son service. Il dit, mais tu as une onction, toi. Tu peux être mieux que le pasteur. Tu as une onction. Tu es un intercesseur, tu es un homme extraordinaire. Et vous voyez, il lui propose son service. Et au bout d'un an, deux ans, cet homme va empoisonner la vie de l'église. Le pasteur va partir, mais tôt ou tard, quand le pasteur partira, Satan va maintenant montrer la face du mal et l'église est divisée. Les gens sont blessés et les gens ne peuvent plus revenir à la confiance de Dieu. C'est toujours la même chose, frère. Toujours la même chose. Soyons des adorateurs attachés au Seigneur. Soyons des adorateurs, quand il vient vers nous, il nous propose son service. Je peux faire de toi un grand homme de Dieu. Dites-lui arrière, retire-toi de moi Satan. S'il vient vous dire, je peux faire de toi un homme qui va gagner le monde entier, dites-lui, retirez-vous de moi. Quand j'étais converti à Toulouse, il y a un jeune prédicateur qui avait une onction extraordinaire dans les assemblées de Dieu de Toulouse, de France. Il est parti à un séminaire dans le sud de la France, il y avait une campagne, du moins un camp, le camp retraite. Et ce jeune homme, ce jeune pasteur, un jour, quand il est revenu de la réunion de midi comme cela, il est venu à 15h pour se reposer dans sa chambre. Dès qu'il rentre dans sa chambre, il ferme brusquement. Un homme se présente dans sa chambre. Cet homme, quand il s'est présenté, il a dit, maintenant, le temps est arrivé pour que tu aies un grand ministère. Il faut aller dans la ville. Tu vas louer une salle. Tu vas mettre sur la salle avec un panneau ici, guérison divine. Parce que le temps est arrivé pour que ton ministère grandisse. Et quand cet homme-là parlait à ce jeune, ce frère qui était avec nous, qui avait un bon ministère, ça semblait être bon. Ça semblait être une révélation. Mais le Saint-Esprit qui est en lui a commencé à le mettre en garde. Il commençait à sentir la tristesse en lui. Alors il a reconnu l'ange de Satan déguisé en ange de lumière. Et quand il a reconnu cela, Satan a commencé à dire, à manifester. L'homme descendait, il était plié, plié, plié. Au moment où il était plié à terre, où Satan allait détruire sa vie, il a crié Jésus, Jésus, Jésus. Quand il criait Jésus, la force de l'ange de lumière diminuait. Et il a été redressé. Quand il est arrivé face à face, il a dit, retire-toi de moi, Satan. À l'hôtel où il y avait tous les orateurs, Satan est sorti par la porte dans le couloir. Il a fait du bruit, il est parti. Tous les gens ont ouvert leur porte. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Satan qui vient de partir parce qu'il est venu me proposer quelque chose. Frère, je vous avertis, il regarde votre cœur. S'il y a quelque chose dans votre cœur qui l'attire, il va venir. S'il y a quelque chose qu'il voit qui peut l'attirer, il va venir vous proposer. Dieu regarde le cœur, Satan regarde le cœur. Donc c'est pourquoi, Sophonie, lisons les caractéristiques du vrai adorateur, les caractéristiques du vrai Sophonie, le livre de Sophonie, dans l'Ancien Testament. Sophonie, c'est après Habacuc. Habacuc, c'est avant Nahum. Et Sophonie, après Sophonie, c'est Agé. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Premier élément, première caractéristique de l'adorateur, c'est un adorateur dont les lèvres sont pures. Je leur donnerai des lèvres pures. Nous devons demander à Dieu, donne-moi des lèvres pures, Seigneur. Donne-moi des lèvres pures pour être un adorateur, pour que quand je t'adore, que mes lèvres t'adorent en esprit et en vérité. Purifie mes lèvres. Vous voyez, si vous voyez la vie du prophète Ésaïe, de Ésaïe chapitre 1 jusqu'à Ésaïe chapitre 6, si vous lisez, quand Ésaïe prêchait, il disait malheur au peuple, malheur au peuple. Il disait au peuple, vous êtes, Dieu va vous frapper, Dieu va vous dire ceci ou cela. Chapitre 6, Dieu apparaît à Ésaïe. Ésaïe dit maintenant, malheur à moi. Malheur à moi parce que j'ai des lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Le prophète a prêché. Il a prêché au peuple. Il a menacé le peuple. Mais lui-même, il n'était pas en règle. Quand Dieu s'est tourné vers lui, quand il a vu la gloire de Dieu assis sur le trône, il a dit, malheur à moi. Or, avant, c'est lui qui disait, malheur, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Dieu est venu le toucher. Dieu a pris, l'ange a pris, le séraphin a pris, donc, des pierres étincelantes, et il a mis sur les lèvres d'Ésaïe. Ses lèvres ont été purifiées. Et Dieu dit maintenant, qui vais-je envoyer? Il a dit, moi, Seigneur. Les lèvres pures. Frère, des lèvres pures. Des lèvres pures. Ce n'est pas fini. Psaume 24, psaume 24. Les lèvres pures. Psaume 24, frère. Le temps est venu où l'Église, Dieu veut entrer dans son peuple. On n'a pas le temps, sinon si on allait étudier Matthieu, quand Jésus est rentré dans le temple, Jésus a été choqué. Il dit, ma maison devait être appelée une maison de prière, c'est devenu une caverne de voleurs. C'est la seule fois où Jésus était en colère. Pourquoi? La maison où il devait avoir la prière des lèvres impures, Jésus voit des tables établies qui n'ont rien à voir avec la prière. Et Jésus a purifié le temple et il y a eu la joie, il y a eu des guérisons. Donc ici, le psaume 24, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage du psaume 24? Voici ce que la Bible nous dit, bien-aimés frères et sœurs, je vais le lire, psaume 24, versets 3 et 4. Il dit ceci, qui pourra monter à la montagne l'Éternel? C'est là où on prie Dieu. La montagne de l'Éternel, c'est là où on adore Dieu. Qui? Dieu dit, qui peut monter là-bas? Quel est l'homme qui est qualifié qui peut monter là-bas? Dieu nous donne les qualificatifs de cet homme-là. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La prière de qui est qualifié pour monter à Dieu? Toutes les prières ne montent pas à Dieu. Il y a des prières qui ne dépassent pas ce plafond-là. Quelle est la prière qui va franchir ce plafond, qui va franchir le deuxième ciel? Où est Satan? La prière de Daniel a franchi le deuxième ciel pour aller dans là où Dieu se trouve. Pourquoi? Parce que Daniel était dans la présence de Dieu. Il y a des prières qui sont arrêtées par Satan, car ce sont des prières où il y a le péché. Satan a le droit d'arrêter. Dieu lui a donné ce droit-là. Et les prières ne sont pas exaucées. Satan a le droit d'arrêter nos prières si elles ne sont pas dans la pureté. Donc il dit ici, qui pourra, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Frères, regardons entre nous. Les petits problèmes dans l'église, pardonnons-nous. Au moment où nous faisons des réunions de prière, si moi je dirige la réunion de prière, dans mon cœur, j'ai une amertume contre un frère. Frère, la réunion est nulle. Nous sommes venus faire de la gymnastique. Je voudrais vous parler sérieusement. Je viens diriger votre réunion de prière. Je viens ici, je dis on va faire la prière. Et au moment où je conduis la prière, dans l'assemblée, il y a un frère qui vient de m'offenser tout de suite. Je n'ai pas pardonné. Et je viens ici pour diriger. Frère, je perds mon temps. Je perds mon temps parce que je suis en train d'obliger, je suis en train d'empêcher Dieu de bénir son peuple. Le canal qui conduit n'est pas pur. C'est pourquoi moi j'ai peur. Quand je monte pour prêcher, je me regarde, je m'examine. Je m'examine, Seigneur. Frère, ne prenons pas la légère les choses de Dieu. Il dit un jour, quand j'étais à Toulouse, nous avons fait une réunion le samedi soir, les jeunes, pour la louange, la chorale. Ces jours-là, je me suis emporté, je me suis énervé contre un jeune frère qui jouait la guitare. Une petite incompréhension. Et la chorale s'est terminée en queue de poisson et nous sommes tous partis tristes. Le dimanche matin, nous sommes venus au culte. Ce dimanche matin, j'étais habillé comme jamais un homme peut être habillé. J'étais en trois pièces. La veste, tout bien habillé, cravaté, bien. Et sûr de moi, je me suis assis au premier banc. Le culte commence. L'homme de Dieu est venu, le pasteur est venu. Dans le temps d'adoration. Nous adorons, nous adorons. Brusquement, la présence du Saint-Esprit est venue. Quand la présence du Saint-Esprit est venue, frère, j'étais assis et le frère était assis à l'extrême gauche là-bas. Je voulais adorer Dieu. Dieu dit non, je refuse ton adoration. Tes lèvres et ton cœur ne sont pas purs. J'ai dit, avant de m'offrir une offrande, va te mettre en règle avec ton frère. Moi, je ne peux pas accepter ton offrande. L'adoration, la louange, c'est une offrande. Il y a l'offrande d'argent, il y a l'offrande d'amour, il y a l'offrande de pardon, il y a l'offrande de la réconciliation, il y a toutes ces offrandes-là. Je ne peux pas accepter ton offrande parce qu'elle est souillée. Et devant toute l'église, je me suis levé là. J'ai marché, je suis allé vers le frère qui était assis, comme ce frère qui est assis là. Quand je me suis tout juste prosterné pour dire, mon frère, ce que j'ai fait hier, je n'ai pas cherché à savoir si j'ai raison ou pas. Dieu m'a dit, réconcilie-toi avec ton frère. J'ai dit, frère, pardonne-moi pour mes paroles et mon attitude d'hier, pour ma colère contre toi hier soir. Frère, quand j'ai dit ça, je suis venu m'asseoir, la présence de Dieu, la conviction est venue dans l'église. J'ai commencé à pleurer comme jamais un homme n'a pleuré. Tout était mouillé. Et le frère pleurait. Et sur coup, je vois dans l'église les gens se lever, aller se réconcilier. Il n'y a pas eu de prédication ce jour-là. Dieu a dit, je suis en contrôle dans mon église. Laisse pasteur, assois-toi, c'est moi qui contrôle mon église. Je suis venu purifier mon église. Les anciens se réconciliaient. Des choses qui étaient là dans les cœurs, que les gens gardaient par hypocrisie, en disant bonjour frère. Eux, on a envie de manger le frère, on dit bonjour mon frère. Dieu a purifié l'église. Nous sommes sortis tous sur la pointe des pieds, sans parole, sans bruit, nous sommes allés à la maison. Dieu a fait un réveil dans cette église-là. À cause de ma repentance. Dieu dit qu'il refuse mon adoration parce que mes lèvres et mon cœur ne sont pas purs. Bien-aimés frères, quand Salomon aimait l'Éternel, la présence de Dieu descendait chaque fois. Quand Salomon aimait l'Éternel, la présence de Dieu descendait. Quand il prie, la gloire de Dieu descend. Un jour vient, il est dit que Salomon aima les femmes étrangères plus que l'Éternel. Dieu a arrêté la gloire. Vous ne pouvez pas faire Dieu, on ne peut pas manipuler Dieu, frère. On ne peut pas dire que si la gloire de Dieu descend au moment où tu es contre Dieu, c'est un danger pour toi. Faites attention d'invoquer la gloire de Dieu au moment où tu n'es pas en règle. Parce que si la gloire de Dieu descend à ce moment-là, tu es en danger. Ah, je l'ai expérimenté. Hein? Quand l'onction de Dieu était puissamment sur nous, puissamment sur nous, puissamment sur nous, frère, j'ai commencé à faire des choses, à dire des choses, des vœux que je n'ai pas retenus. La maladie est venue sur moi. Pendant 6 mois, Dieu me dit alors, toi, tu dis aux gens de se mettre en règle, tu n'es pas en règle toi-même. Je permets ce que... Ce n'est pas moi qui envoie la maladie, mais tu as ouvert, tu as donné accès au diable et tu as des problèmes. 6 mois, je crie à Dieu, frère, vrai adorateur, baissons la tête. Baissons la tête devant Dieu. Le Seigneur dit qu'il cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs en esprit et en vérité, mon frère, ne te laisse pas décourager ce matin, non. Au contraire, Dieu veut venir. Hier, il a dit la prière. Ce matin, il dit l'adoration. Il veut venir d'abord vers toi pour que tu puisses être un adorateur en esprit et en vérité. Un homme, une femme dont les lèvres sont pures. Un homme, une femme dont les cœurs sont purs. Un homme, une femme qui a les mains pures. Un homme, une femme qui pardonne, qui se réconcilie. C'est de ce moment-là que la vraie adoration va sortir de ton cœur. Alors mon frère, ma soeur, prends la décision ce matin. Au moment où tu es, prends la décision afin que réellement tu puisses plaire au Seigneur. Ton adoration puisse monter comme un parfum devant Dieu. Sinon, tu vas te séduire toi-même. Tu vas résister. Tu vas dire, j'ai raison. Jésus avait raison sur nous, mais il est descendu pour nous pardonner. Il n'a pas attendu qu'on lui demande pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce matin, s'il y a un manque de pardon dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ne laisse pas que la personne vienne te demander excuse. Dis, prends la décision, je pardonne. Je pardonne à ce frère qui m'a offensé. Je pardonne à cette sœur qui m'a offensé. Je pardonne à cette belle-mère acariâtre. Seigneur, je lui pardonne. Je pardonne à ce beau frère, difficile dans le caractère. Je pardonne à cette personne qui est difficile. Seigneur, je prends la décision ce matin. Dis cela au Seigneur là où tu es. Dis cela au Seigneur, mon frère, ma sœur. Et Dieu va te purifier ce matin. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et pour nous laver de toute iniquité. Ne viens pas à ce séminaire et repartir sans avoir reçu profondément. Tu es là depuis quelques jours. Tu dis, mais je ne reçois rien. Parce qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage. Débloque la situation ce matin. Prends la décision de libérer les gens. Si tu pardonnes, tu es libre toi-même. Sors l'amertume de ton cœur. Sois la rancœur de ton cœur. Et sois un vrai adorateur. Dis au Seigneur, donne-moi d'être un vrai adorateur. Fais de moi une vraie adoratrice, Seigneur. Je vais adorer le Père en esprit et en vérité. Je vais entrer dans ta présence sans complexe de culpabilité. Oh Seigneur, qualifie-moi ce matin. Dis au Seigneur, qualifie-moi. Ôte de mon cœur toute chose qui ne te plaît point. Purifie mes lèvres, Seigneur. Demande cela au Père et le fais ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Donne la parole aux responsables.